Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve avec une invitée. Enfin, ça fait super longtemps que j'ai reçu quelqu'un et en plus, ben, je reçois quelqu'un de super spécial et cher à mon cœur cette semaine parce que c'est Astrid, donc du compte Faute de Frappe, qui vient avec nous et c'est une des bêta lectrices qui a lu La Traverse Rêve et qui m'a énormément aidée à améliorer mon roman. Hello Astrid, comment tu vas?
Coucou, ça va très très bien. Et toi? Je suis très contente que tu me reçoives.
Moi aussi, je suis super contente. Ça fait longtemps en plus qu'on essaie de se capter pour une interview méthode d'écriture, donc très contente. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? On commence par la question très fourbe et difficile.
Alors, du coup, j'ai quand même préparé une petite note au cas où. donc, je m'appelle Astrid Wells. Je suis autrice, illustratrice et bêta-lectrice. Et du coup, bah, comme tu l'as dit, je tiens le compte Faute de Frappe avec un seul P. Compte Insta seulement, où je parle surtout d'écriture, de lecture et d'illustration. Et je vais commencer à parler un petit peu de bêta-lecture.
Ok, cool. En plus, tu dessines si bien.
Merci.
Ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais soit nous pitcher un de tes projets ou nous dresser un portrait général de comme ton parcours avec l'écriture? C'est quoi que t'écris, tout ça, c'est comme tu veux, là. Sens-toi à l'aise de partager ce qui te tente.
Alors, je partagerai pas de pitch pour la simple et bonne raison que le projet que, sur lequel j'ai commencé à travailler, j'en ai pas du tout parlé, enfin quasiment pas, et j'ai pas envie de commencer à en parler tout de suite, pour des raisons qu'on va sûrement traiter dans la vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus sur les réseaux et le partage, donc voilà. Donc, comme j'ai pas trop envie de partager de pitch, je vais plutôt dire ce que j'écris, donc d'habitude... J'écris de la romance et du contemporain. Enfin, d'habitude. Ça fait 3 ans que j'écris de la romance et du contemporain. Et il y a quelque chose comme 2 semaines, j'ai eu une idée de romantaisie. Et donc, ça fait 2 semaines que je planche sur ce roman de romantaisie qui, pour l'instant, les idées et ce que j'en ai écrit, ce que j'ai écrit le premier chapitre et le prologue, me plaisent énormément. Mais je ne peux pas trop en dire plus. Excepté que, bah, voilà, ça se passe dans un univers magique... que j'espère assez développé, parce que j'ai pas trop envie de tomber dans l'écueil de faire tout tourner autour de la romance et que le reste soit qu'un décor. J'ai quand même envie que ça soit vraiment de la fantaisie. Donc même l'intrigue est une intrigue quand même romance mélangée à de la fantaisie.
Ok.
Et puis voilà, c'est à peu près ça que j'écris en ce moment. Mais en général, ouais, plutôt du contemporain.
Ok. Ben c'est cool parce que, tu sais, moi, je te vois à l'écran et t'as l'air vraiment d'avoir des étoiles dans les yeux quand tu parles de ton nouveau projet, donc c'est bon signe.
Ouais, vraiment.
Super. Donc, t'as vraiment du fun avec ça en ce moment.
Énormément, ouais.
Cool. Puis, pour ton parcours, vraiment, avec l'écriture, ça fait combien de temps que t'écris? Est-ce que t'as commencé autrement que vraiment en écrivant des romans, tout ça?
Mon vrai début de parcours d'écriture, je pense que j'ai commencé avec la poésie assez petite, mais je me souviens pas exactement quand, peut-être autour de 10 ans, j'ai commencé à aimer un peu lire, enfin, j'ai toujours aimé la poésie. Ça, c'est un truc qui a toujours été assez présent dans ma vie. Mais vraiment, en termes de roman, mon premier roman commencé, j'avais 12 ans. Et c'était vraiment le truc le plus basique au monde, donc une guerre des éléments, un peu à l'Avatar. Le truc basique par lequel tous les auteurs, toutes les autoristes de fantasy débutent, j'ai l'impression. Ouais. Et j'ai pas écrit très longtemps. Enfin, en termes de roman, j'ai pas écrit très longtemps. Je pense que j'ai dû écrire 1 ou 2 ans, donc de mes 12 à mes peut-être 13, 14 ans maximum. Et ensuite, j'ai arrêté au profit du coup du dessin, de la peinture, où j'ai beaucoup dessiné, beaucoup peint. Et puis aussi de l'écriture de la poésie. J'ai quasiment que écrit de la poésie jusqu'à recommencer un projet d'écriture à 22 ans, qui était une saga fantasy que j'ai traînée pendant 4 ans, que j'ai écrit intégralement. Enfin, j'ai écrit du coup plus ou moins les 4-5 premiers tomes. Alors, c'était plutôt des genres de G0 / premier jet. Mais comme je ne connaissais aucune technique d'écriture, en fait, j'ai juste vomi 5 tomes qui n'avaient pas forcément beaucoup de cohérence, ou enfin bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mmh. Et suite à ça, donc ça m'a pris 1 an, je pense que j'ai dû, ouais, en 1 an, j'ai écrit... Alors quand je dis 4 tomes, faut savoir que vraiment, les 2-3 derniers autres tomes, il y avait peut-être 25 000 mots dans chaque, donc c'est pas genre, j'ai pas écrit 5 tomes de 100 000 mots, quoi. Non, j'ai écrit des petits romans de 25-30 000 mots. Donc, sur un an, ouais, j'ai beaucoup écrit. Et ensuite, j'ai passé peut-être 4 ans, non, 3 ans du coup, à tomber dans une spirale infernale de réécriture du premier tome.
Ok, beaucoup, beaucoup de réécriture.
Ouais, je pense qu'il y a eu plus d'une dizaine de réécritures et de déceptions et de... Ouais, bah 4 ans de travail sur... Enfin, 3 ans de travail sur le premier tome. Et en fait, je ne suis jamais venue à bout d'une réécriture. À chaque fois que j'arrivais vers le milieu, je revoyais à quel point est-ce qu'il y avait encore d'autres problèmes que j'avais pas vus avant et je recommençais tout depuis le début. Enfin, ça a créé une espèce de relation amour-haine entre moi et la fantasy. Et quand j'ai abandonné mon projet, donc à 26 ans, donc j'en ai 28 aujourd'hui, et je vais en avoir 29. Donc quand j'ai abandonné mon projet, je suis partie immédiatement sur un projet de romance qui m'est venu vraiment. J'ai tout de suite su de quoi je voulais parler. J'ai tout de suite su que je voulais écrire cette histoire, mais les personnages me sont venus assez vite, en fait. Je pense qu'en une semaine, j'avais quasiment toute la trame du récit. Je savais de quoi je voulais parler. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, 3 ans presque même, je n'ai fait qu'écrire du contemporain et de la romance. Et ça m'allait très bien. Je pense que j'avais besoin de laisser de côté la fantaisie, parce que la saga m'a traumatisée. je pense que j'étais vraiment trop restée sur quelque chose de mauvais, enfin une relation vraiment amour-haine avec la fantasy, et j'avais besoin d'écrire des choses qui étaient un peu plus évidentes pour moi. Et je trouve que il y a quelque chose de très évident dans le contemporain et la tranche de vie, parce qu'on relate des événements qui sont finalement très proches de ce qu'on peut vivre. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai eu une idée de romantaisie. Et je me suis dit, c'est celle-là, en fait, je crois. Je crois que c'est ça qu'il faut que j'écrive. Et du coup, j'ai tout simplement commencé à écrire.
Super. Puis ton projet, le premier projet, justement, qui t'a un peu fait, on va dire, dévier de la fantaisie, est-ce que tu penses y revenir un jour? Ou pour toi, c'est vraiment juste comme une pratique de début de parcours?
Je me demande, parce que j'avais déjà pas mal pratiqué l'écriture et j'avais déjà beaucoup appris de ma saga. En fait, l'avantage d'être partie sur un autre genre, c'est que un peu tous les problèmes que j'avais vus, les problèmes structurels ou de construction de personnages, etc., c'est des choses que j'ai pas refaites dans ce nouveau projet, parce que comme j'avais beaucoup, beaucoup appris de mes erreurs et que j'avais fait beaucoup d'erreurs, ça m'a permis en fait de tout simplement pas refaire les mêmes. Il y en a eu d'autres. Et en soi, c'est un projet que je n'ai pas encore réécrit, qui attend toujours. Je pense que j'y reviendrai, mais je ne me vois pas publier ce texte en premier. Je veux pas que ça soit ma première publication, je veux pas que ce soit mon premier roman publié. Je l'aime beaucoup, mais je pense que c'est un texte qui est chargé de plein de choses, et c'était un peu une recherche identitaire aussi en tant qu'autrice. J'ai mis beaucoup de choses dans ce texte, et je pense que j'y reviendrai un jour, mais chaque chose en son temps.
Ouais, effectivement. Super. Puis c'est quoi tes aspirations avec l'écriture? Je trouve que ça peut vraiment comme affecter les réponses aux questions suivantes, donc j'aime beaucoup poser cette question-là.
Elle est intéressante, celle-ci. Il y en a plusieurs où je me suis dit j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais répondre. Et du coup, mes aspirations, il y en a 2 principales. Depuis toujours, à chaque fois que j'ai écrit, sauf peut-être dans mon tout premier projet quand j'avais 12 ans, mais depuis que j'ai repris l'écriture, donc depuis mes 22 ans, j'ai toujours chargé mes textes de choses que j'aurais aimé savoir ou de réflexions que j'aurais aimé voir quelque part pour mieux comprendre le monde qui m'entourait. Et ça a été le cas du coup avec ma fantaisie qui parlait de paternité. C'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup touchée, la paternité dans La Traverse Rêve. C'est un sujet pour moi qui est extrêmement important. Donc c'est toutes ces sagas fantasy en fait parler de paternité. Ensuite, j'ai plutôt parlé d'amour, parce que du coup dans la romance j'ai aussi exploré cette partie là en fait que j'avais pas du tout exploré dans la saga. Il y avait pas d'amour romantique, en tout cas. Il y avait de l'amour entre un père et sa fille, il y avait de l'amour amical, etc., mais il y avait pas d'amour romantique. Et finalement, dans l'amour romantique, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent socialement, il y a beaucoup de choses qui se rejouent de nos relations passées avec même pas forcément des gens qu'on a aimés romantiquement, mais juste des gens avec qui on est entré en relation, et j'avais besoin de comprendre des choses et de faire comprendre des choses, de transmettre des valeurs en fait. Et je pense que c'est ça mon inspiration principale, transmettre des valeurs. Et la deuxième chose, ça rejoint encore le fait de transmettre, mais c'est plutôt par rapport à mon neveu depuis sa naissance, donc il a un peu plus d'un an et demi. Il a un peu plus d'un an et demi, donc c'est pas pour tout de suite, hein, il va pas lire tout de suite, mais j'aimerais beaucoup commencer à écrire de la littérature pour enfants et de la littérature jeunesse, très jeunesse, parce qu'à partir du moment où il commencera à lire, ou même à partir du moment où... où, disons, ses parents pourront commencer à lire des choses un peu plus développées. J'aimerais qu'ils puissent lire des choses de moi aussi, parce que j'ai envie, quoi. J'ai envie de...
Je comprends.
Ouais.
Puis t'aimerais vraiment faire album jeunesse ou plutôt des romans jeunesse?
J'aimerais bien faire des albums jeunesse, mais du coup, peut-être pour, on va dire, à partir des 5-6 ans.
Ok.
5, 6, 7 ans, puis après, évoluer, en fait, aussi, en fonction de ce que Malo aimera lire, s'il s'appelle Malo. Donc, en fonction de ce qu'il aimera lire et de ce que j'aurais aussi envie de transmettre, si je vois qu'il a des questionnements, je pense que ça évoluera aussi beaucoup par rapport à mon rapport à mon neveu, et je me laisse le temps de voir venir, ouais. C'est pas tout de suite non plus.
Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne idée, puis ça doit vraiment comme ouvrir nos horizons en tant qu'auteur quand on se met à écrire un genre tout autre, parce que ça doit être tellement différent d'écrire vraiment pour la jeunesse et pour très jeune comme ça, genre 5-6 ans.
Je pense que c'est très différent. Bah, après, c'est vrai que j'ai commencé à regarder les livres que ma sœur lui lit déjà. Bon, c'est vraiment des livres pour enfants très petits, donc pour l'instant, il y a genre quelques mots sur chaque page, donc je me vois pas écrire non plus de la littérature pour tout petit. Pas que je pense que ça sert à rien, parce que je pense que ça sert, hein, il y a des images, etc., il y a plein de choses possibles à faire, mais c'est comme ce que je te disais, j'écris surtout pour transmettre des choses, et je pense que à partir du moment où Malo pourra déjà commencer à parler et lui-même transmettre des choses, en fait, je veux dire vraiment de ce qu'il ressent, enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire. En soi, un bébé peut transmettre aussi des choses, mais dans les mots et dans la vocalisation de nos pensées, il y a quelque chose qui se joue, qui est différent, je trouve. Et quand tu arrives à un âge où ton enfant peut comprendre des choses de plus en plus complexes, je trouve que c'est intéressant de lui écrire des histoires qui racontent quelque chose et qui lui apprennent des choses aussi. Voilà.
Totalement. Donc, t'aimerais publier tes romans, puisque tu veux transmettre... plein de choses. Est-ce que t'aimerais ça aussi publier peut-être un jour des albums jeunesse? Vraiment juste les lui donner à ton neveu?
Non, je pense que j'aimerais bien publier des albums jeunesse. Après, si, je pense qu'il les aura avant tout le monde. mais si ces albums-là intéressent une maison d'édition, honnêtement, oui, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas.
Super. Parfait. On passe ensuite à la section plutôt inspiration, habitude. Est-ce que tu t'inspires beaucoup de tes lectures, séries, jeux vidéo, films, peu importe?
Alors, personnellement, tout m'inspire. Quand je dis tout, c'est chaque élément de la vie, même parfois des choses qui n'ont... Enfin, même des choses qui sont pas... des choses qu'on ne lit pas, des choses qui n'ont pas de dialogue, des choses... Enfin, je pense par exemple au statut quand je vais dans un musée. Enfin, j'ai eu une idée. Parce qu'en fait, l'idée que j'ai eue de romantasy, ça serait un peu un mensonge de dire que c'est la première idée de fantasy que j'ai eue depuis un moment. J'ai régulièrement des idées de fantasy. C'est toujours un genre qui m'intéresse, sauf que j'ai jamais eu une idée de fantasy qui m'a redonné à ce point envie de retourner dans la fantasy. Par exemple, j'étais allée au musée il y a peut-être quelques mois et. En voyant une gargouille, j'ai imaginé en fait un roman où un personnage aurait toujours sa petite gargouille avec lui et serait capable de changer les statures, pas les changer, mais serait capable de les animer en fait de vie. Et ouais, il y a des choses en fait, un peu tout peut m'inspirer sur le moment. Je peux avoir juste une idée comme ça qui vient et je me dis tiens, ce serait cool que ce personnage-là. Enfin, c'est toujours des personnages qui me viennent. C'est jamais des histoires. Donc. C'est toujours à travers les gens. Les gens que je rencontre aussi peuvent énormément m'inspirer. Après, forcément, mes lectures. Hein, mes lectures, ce que je regarde. Tout m'inspire. Je dirais que les choses principales qui m'inspirent, c'est l'art. et les gens. C'est un peu vague, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans l'art, mais ouais, tout type d'art. Je peux me sentir inspirée par une musique que j'écoute, je peux me sentir inspirée par, par une conversation que j'entends, par un livre que je lis, même si, je vais dire, c'est un peu plus rare, mais non, en soi, j'aime beaucoup, enfin, comment dire, je lis de plus en plus, chose que je faisais de moins en moins en sortant de maîtrise de littérature, d'ailleurs.
J'étais ouais, un peu je dégoûtée. Pense que ça nous est tous arrivé.
Ouais, j'étais un peu dégoûtée de la lecture et j'ai passé un certain temps où je lisais quasiment plus. Bah, c'est le moment d'ailleurs où j'ai un peu... Bah, c'est le moment où j'ai abandonné mon projet de fantasy et où j'ai commencé à écrire du contemporain. Je lisais presque plus et je lisais surtout presque plus de fantasy. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal lu de fantasy. Là, depuis septembre dernier, il y a eu L'Engrange-temps de Nel, que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu La Passe Miroir, que j'ai découvert grâce à toi, puisque tu m'as offert le premier livre, je sais pas si tu te souviens.
Oui, oui, je me souviens.
que j'ai dévoré aussi, et dont j'ai adoré l'univers. Il y a eu... j'ai commencé La Passeuse de mots. Enfin, il y a eu comme ça plein de dernièrement de romans fantasy que j'ai commencé ou que j'ai terminé. Et c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que mon projet en cours m'a autant... mobilisée psychologiquement, c'est que du coup, d'un coup, je me suis dit, il faut vraiment que je me lance sur ce projet-là. J'ai envie de retourner sur quelque chose de, justement de pas de magique, de féerique. Ça m'a toujours attiré, quoi, tous ces mondes imaginaires. J'ai toujours aimé lire de l'imaginaire et je pense que j'ai arrêté d'en écrire juste par saturation et ras-le-bol et que là, c'est le bon moment pour moi. D'y revenir, mais ouais, l'inspiration me vient un peu de partout.
Ouais, ben c'est cool. J'aimerais être comme ça parce que moi, c'est un peu plus difficile. Genre, j'ai l'impression que mon cerveau bloque les idées volontairement quand je suis sur un projet. Mais en tout cas, je pense que c'est très bon signe que ta nouvelle idée prenne autant de place et que t'aies autant envie de te plonger dedans. Puis j'imagine que la lecture de fantasy et d'imaginaire t'a aidé à te replonger aussi.
C'est vrai, je me souviens que tu avais dit que toi, souvent, tu avais une idée et puis c'était ton cerveau qui était dessus, une ou deux idées et ton cerveau était focus dessus.
Ouais, vraiment. C'est un peu spécial. Tu sais, moi, j'ai pas comme... Ben, j'ai l'impression que la majorité des auteurs ont genre un carnet avec 20 idées. Moi, c'est pas ça. Faut comme que je les trouve quand je veux commencer un nouveau roman, mais bon.
Et en même temps, c'est plutôt cool parce que ça te permet de rester focus sur un truc.
Ça a des bons côtés.
Ouais. Parce que le syndrome de l'objet brillant, moi, c'est mon ami.
Moi, c'est rare qu'il me frappe. Au moins. Est-ce que tu utilises des carnets à part ça? Est-ce que tu notes tes idées quelque part autre que ça?
Alors, j'utilise pas de carnet. J'écris quasiment jamais à la main, quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Enfin, j'utilise vraiment. À chaque fois que j'ai essayé, je finis par abandonner les carnets à leur sort. Il est inutilisé, mais par contre, je note. Je note sur les notes de mon téléphone. Je prends énormément de notes sur les notes de mon téléphone. C'est là où sont toutes mes idées. L'intégralité de mes idées. Donc, si je perds mon téléphone, je perds l'intégralité de ce que j'ai noté.
Oh non. Mais je te le souhaite pas.
Ça serait pas dramatique parce que finalement, les idées qui restent dans ma tête, c'est celles qu'il faut que j'écrive. Donc.
Ouais. Bon. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Est-ce que tu as une organisation spécifique dans tes notes? Genre, est-ce que pour une idée de roman, disons, tu as toutes tes idées dans une note ou tu as vraiment plein de notes pêle-mêle? C'est comment que ça fonctionne?
Une note, un roman. Même si j'écris énormément. Alors après, ça dépend. Quand j'ai juste une idée, vraiment, genre, on va dire, ok, donc tel personnage, j'en sais rien, une sorcière qui... Bon, là, j'ai pas d'idée comme par hasard. Mais bref, quand j'ai une idée et que c'est vraiment juste une idée d'un personnage ou une idée d'un mini bout d'intrigue qui me permettrait de parler d'un sujet, je vais noter l'idée. Je vais essayer de mettre un titre à la note pour pas la perdre au milieu de nulle part. Mais ça va rester là, juste tout court sur ma note. Quand cette idée se développe un peu plus, que la graine est plantée et que ça se développe de plus en plus dans ma tête, je vais continuer à utiliser mes notes de téléphone, mais je vais commencer à mettre des numéros de notes. C'est-à-dire que toujours sur la même note, je vais noter note numéro 1. Et quand cette note numéro 1 est trop grande, je copie je m'envoie un mail avec toutes les notes que j'ai prises et je passe à la note numéro 2. Donc en gros, ça me permet déjà de pouvoir mettre toutes mes idées sur mon PC ensuite et bah voilà, pouvoir faire un tri. Et puis ensuite, bah, quand je commence à organiser, quand je passe en fait aux étapes suivantes où vraiment je vais commencer à réfléchir de plus en plus au roman, enfin là tu vois sur mon sur le projet de romantaisie, donc cette idée que j'ai eue il y a 2 semaines, j'en suis je crois à la note 12 ou 13, quelque chose comme ça sur mon téléphone, donc voilà, ça fait quand même 13 fois où je me suis dit bon, là c'est bon, ces idées là je les envoie et je ferai un tri et je réfléchis autour de ça quoi, donc ouais c'est quand même assez organisé.
Ok, puis t'es vraiment inspirée pour ton nouveau projet. Ça fait beaucoup de notes, effectivement. C'est
cool. Après, ça peut être une note d'une page, hein. C'est pas obligé d'être des pages et des pages entières de notes, mais c'est vrai que quand l'inspiration me frappe et que mon PC n'est pas ouvert, je n'attends pas de l'ouvrir parce que sinon j'oublie.
Ok. Est-ce que tu considères que tu pourrais te qualifier d'architecte, jardinière, paysagiste ou rien de tout ça?
Je pense que je suis plutôt paysagiste parce que j'ai commencé jardinière avec mon roman de fantasy. Non, en fait, ça serait mentir de dire que j'ai commencé jardinière. J'ai commencé architecte dans ma tête. J'ai commencé architecte dans ma tête parce qu'en fait, je faisais beaucoup de daydream. Je passais beaucoup de temps à imaginer en fait cette histoire dans ma tête. Et quand je l'ai commencé, ça faisait déjà plusieurs années que je pensais à cette histoire. Donc, j'ai écrit sans faire de plan, mais tout simplement parce que le plan était dans ma tête, en fait. Je savais exactement où j'allais avec cette histoire et j'ai pas eu besoin de planifier. Bon, j'aurais peut-être dû. Ça m'aurait évité bien des soucis. Mais bon, voilà, hein, j'ai appris de mes erreurs. Et maintenant, c'est vrai que depuis mon premier projet de contemporain, enfin romance contemporaine, je planifie, mais je garde une liberté assez grande. C'est-à-dire que quand j'écris, si j'ai une idée, je vais pas me dire « Ah non, ça suit pas mon plan, je vais l'intégrer et puis on verra, advienne que pourra, quoi. » Genre, je vais même retravailler mon plan si je pense que cette idée, il faut qu'elle ait un impact vraiment grand sur l'histoire et comment est-ce que je pourrais retravailler ça. Donc, ouais, je dirais un mélange des deux. Je laisse les idées venir et je planifie quand même pour avoir des bases un peu solides.
Ok.
Et puis, bah, s'il y a une idée qui me plaît, je vais avec ça, quoi.
Ok. Puis ta méthode, tu dirais que c'est quoi? Genre, est-ce que tu planifies un chapitre, on dirait pas, là, selon ce que j'entends?
Alors, j'ai une méthode, ça c'est depuis Molanta, j'ai fait Molanta là, cette année. Mm-hmm. Les machines, si vous passez par là, je vous fais un petit coucou. Et Molanta a un peu changé mon rapport à l'écriture parce qu'il fallait écrire beaucoup assez vite. Et j'ai testé la technique du J0 et ça me convient extrêmement bien. Et là, je suis en G0, en fait, pour mon projet de romantaisie. Donc, je planifie, mais dans les espèces de plans, donc quand je fais chapitre 1, je vais mettre toutes les idées en vrac total, des bouts de description, des bouts de dialogue, des trucs. Donc, c'est pas juste, je planifie, genre, dans ce chapitre, il faut qu'il se passe ça. Non, c'est vraiment, je vais tout mettre en vrac, le plus de choses possible. Et je fais ça jusqu'à ce que je sais plus quoi dire. C'était pas très français, c'était jusqu'à ce que je ne sache plus quoi dire. Bref.
On avait compris quand même.
mais voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne maintenant. Je trouve que cette technique de G0 va pas trop se prendre la tête et à réfléchir, à mettre toutes ses idées en vrac. C'est un peu comme un brainstorm, mais passer un peu comme un début de G1, quoi. Enfin, pas vraiment du premier jet, mais pas vraiment non plus juste du plan. Et c'est très cool, ça me convient vraiment bien de faire ça comme ça.
Je comprends, parce que j'ai essayé aussi, justement, pendant Molanta pour le tome 2 de La Traverse Rêve, et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Je faisais comme toi, puis moi, c'est sûr que quand je planifie, je fais un chapitrage quand même très détaillé, mais là, je me tente à essayer vraiment en G0 plutôt que faire un chapitrage, justement. Je trouve que ça aide à mieux visualiser, tu sais, tous les événements, un à un, comment ça se déroule. Puis je trouve que c'est bien aussi de noter, tu sais, quand tu as une description, quand tu as une idée de phrase ou un dialogue, ça fait en sorte que quand tu arrives au premier jet, tu as déjà une très bonne idée de ce que tu fais.
Vraiment. Puis du coup, des fois, ça te libère aussi un peu l'esprit sur certaines tournures ou certaines choses, parce que t'as déjà noté des choses, donc en fait, tu vas pas avoir à tout écrire, et ouais, je suis d'accord, ça soulage d'un certain poids à l'écriture du premier jet, en tout cas.
C'est ça que je trouve aussi. Comment se passe, toi, tes premiers jets? Est-ce que tu aimes cette étape? Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas trop. Là, j'avoue que le parce que du coup, je suis en G0, mais j'ai écrit quand même en premier jet le prologue à chapitre 1. Parce que à la base, j'avais l'idée absolument folle que je ne vais probablement pas faire de participer à Big Bang alors que ça fait que 2 semaines que j'ai l'idée.
Ouais.
Je sais pas, c'est pas une bonne idée, mais ça m'a beaucoup motivée. Ça m'a beaucoup motivée, ça m'a permis de réfléchir très vite et ça m'a permis de poser l'histoire finalement en une semaine et demie, j'avais quasiment toute la trame. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Après, là, je préfère rester en G0 sur la majorité du plan. Enfin, j'ai quand même mon plan de chapitre, mais voilà, il faut que je, en plus de planifier, que je fasse du G0 dans chaque chapitre. Okay. Mais j'ai écrit en premier jet le prologue et le chapitre 1. Et c'était laborieux, très laborieux.
Ok.
Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été... Bah, en fait, ça... la dernière fois que c'était aussi laborieux, c'était quand je travaillais sur mon projet de fantasy, ma saga. Et je pense que c'est le fait que en contemporain et en romance, je me laissais énormément de liberté sur le ton, sur la façon dont j'écrivais. Enfin, c'était un texte écrit presque très parlé finalement, avec un vocabulaire très courant, familier, voire même vulgaire par moments avec certains personnages. Et ça me laissait une liberté que là, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu en fantasy parce que j'ai quand même des exigences pour ce texte. Et donc déjà, j'écris au passé, alors que j'écrive au présent depuis 3 ans. Donc le passage au passé, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ensuite, il y a le passage à un langage qui est soutenu, chose que je n'utilisais honnêtement pas du tout en contemporain. Alors ça pouvait arriver d'utiliser quelques mots un peu plus élaborés, mais moi j'aime dans le contemporain quand c'est justement très... Comme dans la vraie vie en fait, pour moi le contemporain c'est ça que ça représente, ça représente nous, ça représente nos interactions réelles, ça représente le monde dans lequel on est. Et en vrai c'est très rare de croiser quelqu'un qui parle soutenu. Du coup tout ça se transmettait même dans la narration de mes personnages. Quand mes personnages racontent leur histoire, ils utilisent un langage comme s'ils racontaient à leur ami presque, en fait. Évidemment, avec des phrases quand même un minimum construites. Mais, mais voilà, donc j'avoue que là, le passage au premier jet, avec le passage au passé, c'est vraiment quelque chose qui est très déstabilisant. Et moi, qui de base suis déjà lente en écriture, là, je sais même pas s'il y a un mot pour qualifier à quel point est-ce que je suis lente.
Mais te connaissant, je pense que t'es quand même très perfectionniste aussi. Donc j'imagine que quand t'es en premier jet, t'as envie que ça soit très bon déjà du premier coup.
Pour le contemporain, je ressentais moins ça parce que justement, comme je me sens un peu plus libre dans l'expression... c'était pas trop grave s'il y avait des choses qui... Enfin, j'ai écrit mon premier contemporain, enfin un roman, c'est pas cliché, du coup, je l'ai écrit quand même assez vite pour moi. Je crois que j'ai dû l'écrire en 6 mois, ce qui est quand même pour moi assez rapide. 6 mois du début à la fin, c'est-à-dire de la première idée jusqu'à la fin de roman, c'est pas cliché. Et j'étais à fond, et oui, des fois je passais quand même plusieurs heures. En fait, ça dépendait des chapitres aussi. Il y avait des chapitres qui sortaient tout seuls, d'autres où c'était un petit peu plus difficile. Mais oui, globalement, je suis quand même, je pense, du côté de la team qui a un premier jet qui est quand même assez propre, entre guillemets. Je suis incapable de balancer en vrac des trucs, de sauter des passages, de faire comme si les fautes n'existaient pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je n'y arrive pas. Mais ça me convient. Honnêtement, ça m'a jamais plus posé problème que ça. Après, évidemment, là, il y a un peu de frustration parce que comme sur ce nouveau projet, j'y passe beaucoup trop de temps à mon goût pour si peu de phrases. Forcément, ça me frustre. Mais je me dis qu'il y a aussi un temps d'adaptation. J'espère que je vais m'adapter.
Ouais, passer au passé, c'est quand même complexe, je pense. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même normal que, pas que ça bloque, mais que ça prenne plus de temps.
Ouais.
Et c'est bien que tu fasses un G0, je pense, vu tout ce que tu me dis, parce que comme ça, ça te permet vraiment comme tu dis, là, jeter tes idées sur la page et après, quand tu arrives au premier jet, ben oui, tu es un peu plus perfectionniste, mais au moins, tu as déjà comme une base sur laquelle tu peux
signaler.
C'est cool.
Vraiment, ouais. Mm.
Nice. Et bon, on a un petit peu eu ta réponse, mais j'imagine que tu es team un peu, je reviens en arrière, je prends mon temps plutôt que team fonceur, fonceuse.
Ouais, en fait, je pense que ça m'a tellement traumatisé la réécriture infernale de ma première saga que honnêtement, si je peux avoir un premier jet qui est plutôt propre, ça veut pas dire qu'il y a rien à retravailler, il y a toujours des choses à retravailler, mais si je peux avoir un premier jet qui est quand même correct dès le début et où les choses à retravailler sont les plus minimes possibles, je préfère ça. Et du coup, je préfère parler du roman avec des amis ou quoi pour avoir leur avis quand j'ai un doute et pouvoir un peu finalement voir mes erreurs au fur et à mesure de l'écriture et les reprendre sans attendre. Moi, je trouve que ça m'a permis, en tout cas pour Romance pas cliché, pour mon contemporain, ça m'a permis d'avoir, même si j'avais des retours assez très positifs, les quelques retours négatifs que j'ai eus, notamment d'une de mes bêta-lectrices qui était très 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 pointilleuse, finalement c'était des choses où ça demandait pas une réécriture de fond. La structure était bonne parce que je l'avais travaillée en amont, les personnages étaient vivants parce que je les avais travaillés en amont, enfin voilà, il y avait quand même il y avait quelque chose, quoi. Donc le retravail, ça allait être plutôt sur quelques éléments à retirer ou des choses à détailler, enfin voilà, des choses finalement assez faciles à retravailler, je dirais. Ouais, c'est mon objectif quand j'écris un premier jet maintenant, la réécriture là, je veux plus faire une réécriture infernale.
Je comprends. Moi aussi, je suis un peu traumatisée. Mais ouais, non, en tout cas, moi, je suis un peu entre les deux. Vu que je planifie mon roman, je me dis, ça devrait pas être si pire, mais en fait, c'est quand même intense. La réécriture, en tout cas, ça l'a été pour La Traverse Rêve. Donc, j'essaie.
Après, c'était ton premier roman aussi. Donc, c'est ça.
C'est ce que je me dis. Oui. Je pense que ça va être un peu moins pire les prochains, j'espère, en tout cas. Mais
plus tu vas écrire et plus t'avances sur ton chemin d'écriture et plus t'apprends à soit repérer les erreurs plus vite de toi-même, déjà, soit ne pas les faire.
C'est ça.
Donc ouais.
Ouais. Ok, ensuite, on passe à la relecture. Est-ce que tu relis ton roman en entier après avoir écrit le premier jet? Non? Ok, comment tu fonctionnes?
En fait, comme je disais, quand j'ai une idée qui me vient ou que... Enfin, en fait, je suis un peu une overthinker, je pense tout le temps. Quand je suis sur un projet, je pense tout le temps à ce projet. Et j'ai moi-même des réponses qui me viennent au fur et à mesure de l'écriture. Et en fait, si tu veux, quand j'écris, j'ai un second plan pour ma réécriture que je remplis au fur et à mesure des trucs qui me viennent en mode... Genre, je reviens pas tout le temps en arrière. Je reviens en arrière quand vraiment je sens qu'il y a un truc qui me bloque ou que j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je suis bloquée. Là, pour moi, c'est important de revenir en arrière. Mais quand j'ai écrit un chapitre et que, dans la globalité, il me plaît, ou en tout cas, quand j'ai terminé de l'écrire, il me plaît, bah même si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce chapitre, je vais le noter sur mon plan de réécriture et je vais continuer à écrire. Donc, je reviens pas tout le temps en arrière. C'est vraiment... Bah, c'est pour ça que j'ai pu terminer un premier jet, d'ailleurs. Parce que sinon, en fait, on s'arrête juste jamais de reprendre. Je pense qu'il faut un minimum de discipline et de... Enfin, faut quand même être capable de continuer à écrire, même quand on sait qu'il y a des choses à reprendre. Mais comme, justement, je tiens cette espèce de deuxième plan de réécriture, il se remplit déjà au fur et à mesure. Et quand je vois moi-même des incohérences ou des choses où je me dis « Ok, là, je rajoute ça, cette idée, donc il faut que je change ça au début parce qu'il faut que ça vienne plus tôt. » En fait, je note immédiatement ce qu'il faut que je change. Et comme en plus la forme, je la travaille quand même assez sur le coup, je me soucie pas trop des fautes et des trucs. Enfin, je sais que ça fait pas partie non plus de... C'est pas non plus un énorme problème pour moi, la forme, on va dire, de ce que j'ai écrit. Et puis ensuite, je fais juste directement appel à des bêta-lectrices, en fait, bêta-lectrices. J'avoue que moi-même relire, en fait, je sais de quoi j'ai parlé dans mon roman. Et il y a un côté... En plus, comme je nomme mes chapitres, nommez vos chapitres. Vraiment, je trouve que ça a changé mon rapport aussi à la réécriture. Et au fait même juste de repenser à son roman, parce que en ayant des noms, et pas juste des chapitres 1, chapitre 2, chapitre 15, bah en fait, quand je vois le nom du chapitre, je sais exactement ce qu'il y a dans ce chapitre. Donc j'ai pas besoin de le relire pour savoir, enfin, en tout cas de mon point de vue, la forme, enfin, la forme peut-être que j'ai besoin de le relire, mais le fond, j'ai pas besoin de le relire pour savoir ce qu'il y a dedans et ce qui pose problème par rapport soit à mes nouvelles idées, soit par rapport à ce que m'ont dit certaines personnes qui ont lu. Donc en fait, je vais juste relire mon plan de chapitre avec les noms de chapitres, avec les remarques que je m'étais faites de base, les remarques de mes bêta-lectrices, et en fait, ça va me suffire pour savoir quoi changer dans le fond. Et ensuite, la forme, bah, comme quand je vais changer le fond, je vais relire, j'ai pas besoin de faire une relecture complète de mon texte, j'ai juste besoin de, en relisant, changer et le fond et la forme. Et du coup, je fais les deux en même temps. Je veux plus faire plusieurs réécritures.
Je comprends. Donc, tu envoies ton manuscrit directement après le premier jet à des bêta-lectrices?
Ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
Ok, donc ton premier jet est quand même propre.
Bah ouais, honnêtement, je fais quand même en sorte qu'il n'y ait pas trop de fautes. Enfin, quand j'écris, je porte quand même une attention assez précise aux phrases, aux trucs comme ça. Donc je ne me retrouve pas avec des aberrations. Je sais que moi, ça me ferait beaucoup rire de relire et de trouver des choses un peu aberrantes, parce que quand je vois des auteurs qui en parlent et qui partagent leurs pépites de lecture, relecture, et où ils partagent des trucs où ils comprennent plus le sens, c'est marrant, mais c'est des choses qui m'arrivent pas du tout, parce que comme justement je travaille déjà le premier jet de façon assez propre, j'ai pas vraiment de pépites de réécriture. C'est un peu dommage parce que c'est quand même marrant, mais c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne pour moi, donc j'ai pas trop envie de modifier ça.
Ça fait sens.
Ouais.
Puis je trouve ça super intéressant, l'idée de nommer les chapitres. Est-ce que toi, c'est vraiment un titre définitif ou c'est vraiment juste un titre de travail?
Alors, quand j'ai commencé, c'était un titre de travail. Quand j'ai commencé à nommer mes chapitres, c'était du coup avec ma saga de fantasy. Et en fait, j'avais, pour le premier tome, une soixantaine de chapitres courts. Donc entre 700 et 1500 mots, donc des chapitres assez courts. Mais j'en avais beaucoup trop pour me souvenir dans qu'est-ce qui se passait dans quel chapitre. Et en fait, j'étais tout le temps perdue dans qu'est-ce qui se passe au chapitre de 50, qu'est-ce qui se passe, enfin, et j'avais toujours besoin, en fait, de retourner au chapitre, relire et me dire, ah ok, c'est ça qui se passe dedans. Et j'aimais pas cette idée de pas savoir quoi retravailler, où et quand, et en fait, j'ai à la base commencé en nommant vraiment juste pour travailler, moi, de mon côté. Et puis finalement, mon contemporain, j'ai commencé à l'écrire, j'ai mis des titres, et enfin, ma romance contemporaine, et on m'a fait des compliments sur ces titres. Du coup, je l'ai envoyé en alpha lecture même quand j'ai écrit Romance pas cliché. Et en fait, on m'a dit, mais ah, j'aime trop comment tu joues avec tes titres et ce qui se passe dans le chapitre. Parce que du coup, on a des attentes et en fait, c'est pas ça qui se passe. Et t'arrives à déjouer un peu ce qu'on peut s'imaginer. Donc, c'est pas du spoil parce que du coup, on s'imagine un truc et ça n'arrive pas. Enfin, du coup, je me suis dit, mais en fait, finalement, je peux m'amuser avec les titres. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les titres de chapitre parce que ça spoilerait. Et je pense qu'en fait, ça dépend juste de comment on les utilise. Je pense qu'il y a vraiment des titres où, quand on les lit, on pense que ça nous spoil. Mais en fait, selon comment l'auteur joue avec ça aussi, ça peut ne pas spoiler du tout. Et j'essaye de jouer avec ça. Vraiment.
Ok. Mais par curiosité, est-ce que tu as un exemple de titre, de chapitre à nous donner?
Alors, c'est vraiment en exclusivité. En exclusivité, je vais parler du chapitre 1 de mon projet actuel.
Ok.
Donc le premier chapitre s'appelle Vague à l'âme. Okay. Et en fait, ça raconte... je vais contextualiser un tout petit peu. Le personnage principal qui s'appelle Tilly, elle est docteur bestiariste. Donc en fait, elle soigne les créatures magiques. Surtout les créatures anthropomorphes, donc humanoïdes, quoi. Et donc, chapitre 1 qui s'appelle Vague à l'âme. Et en fait, elle va recevoir dans son cabinet un fantôme qui vient pour des douleurs fantômes, en fait. Et donc, quand on voit Vague à l'âme, on ne comprend pas tout de suite parce que ça évoque quelque chose. Enfin, le Vague à l'âme, c'est la tristesse, c'est voilà. Mm-hmm. Et en fait, en lisant, on découvre que ce fantôme souffre, a une souffrance liée à son âme puisque c'est un fantôme. Et voilà, c'est un peu comme ça que je joue aussi avec mes titres. J'essaye pas de donner des titres qui disent vraiment ce qui va se passer dans le chapitre. Genre, je sais pas, la rencontre, ou le cabinet médical, enfin j'en sais rien, j'essaye pas de donner des... Je donne pas vraiment des indices en fait, je ouais. joue un peu avec les titres pour à la fois donner un indice une fois que le lectorat a terminé le chapitre, il se dit ok, vague à l'âme, le fantôme, enfin bref, ouais. il comprend dans l'après-coup en fait, mais ouais je joue quand même pas mal comme ça avec les noms de chapitres, j'aime bien.
Là c'est très nice. Et ton idée de roman a l'air vraiment cool. Je tiens à le dire.
Merci.
Mais en fait, c'est comme un titre qui veut dire quelque chose pour toi seulement. Et après, quand on lit, là, on comprend. C'est cool. Mais je pense que je vais piquer ton idée parce que...
Ouais,
c'est juste La Traverse Rêve, j'ai 67 chapitres. Donc, impossible, comme tu dis, de me souvenir...
Je te promets, ça va te changer la vie. Même si tu les gardes juste pour toi, même si c'est juste des chapitres pour toi, ça va te changer la vie.
Je vais commencer ça. Super, ça m'a
Moi, je prône les titres de chapitres.
Bon, ben, on saute la prochaine question qui est une méthode de relecture, vu que tu fais pas de relecture. Et ben, après, on est rendu à la bêta lecture. Tu m'as déjà dit que tu fais appel à des bêta lectrices. Pourquoi? C'est quoi ta
Parce
raison
que
à quoi?
Ma raison, c'est que je sais que mon texte a des manques, je sais que mon texte a des failles et que. Bah, très souvent, c'est difficile de voir par soi-même. Il y a des choses qu'on peut voir et qu'on peut constater par nous-mêmes avant de l'envoyer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font une première réécriture avant de l'envoyer en bêta lecture. Qui savent qu'en fait, il y a des failles qu'ils peuvent voir. En soi, je pourrais faire une première réécriture. Sauf que je préfère qu'on pointe des failles que je vois déjà. Plutôt que de retravailler des choses, rechanger des formulations de phrases et rechanger si, et qu'en fait on me refasse des remarques par rapport aux mêmes choses que, bah, du coup, j'ai plus ou moins déjà changé, mais pas dans le sens, entre guillemets, voulu. Parce que des fois, je sais qu'il y a des choses à changer, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur comment les changer. Et parfois, les bêta-lectrices arrivent à mettre le doigt sur ça et arrivent à dire, bah, là, telle chose, j'ai pas trop aimé parce qu'en fait, voilà ce que ça m'évoque. Et du coup, tu comprends, ah ok, donc j'ai pas du tout passé le bon message. Enfin, c'est le message le problème, donc c'est le fond. Donc il faut que je trouve dans les mots comment faire passer mieux le fond. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois où on a beau savoir qu'il y a un truc qui va pas dans notre roman, on peut avoir du mal à intellectualiser ce qui va pas et à savoir comment est-ce qu'on peut le transformer. Et ouais, moi je pense que... En soi, on peut. Après, chacun fait ce qu'il veut. On peut faire une première réécriture. Ça pose pas non plus de problème de réécrire d'abord avant d'envoyer. Mais moi, dans mon cas, je trouve pas que ça soit particulièrement utile. Et comme j'ai pas de problème à ce qu'on me dise ce qui va pas, même s'il y a des choses qui sont vraiment des gros trucs à changer. Bah, je vais juste prendre les remarques et puis les retravailler dans un second temps plutôt que de faire deux réécritures. Non, vraiment, je pense que je pourrais faire deux réécritures si vraiment je laissais un certain temps passer, genre un manuscrit que j'ai fait bêta lire une première fois, et que j'ai envie d'avoir un œil nouveau, un nouveau regard de nouvelle bêta lectrice pour retravailler le roman. Mais, ouais, j'essaye de minimiser vraiment les réécritures.
Je comprends totalement. Est-ce que tu planifies ta réécriture? J'ai l'impression que ça va vraiment genre avec tes notes
ouais,
que tu as faites tout au long.
C'est ça. Comme je prends note avec mon deuxième plan de réécriture. Enfin, j'appelle ça plan de réécriture, mais en fait, c'est juste un plan sur lequel je note au fur et à mesure, au fil de ce que j'écris, les choses que je vois, et puis bah, les choses que me disent aussi mes bêta-lectrices sur le roman. Et ouais, du coup, on peut dire que je planifie. Après, ouais, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de réécriture. Vraiment, réécriture pure, ça fait un petit moment que j'ai pas fait quand même. Et j'ai pas hâte, honnêtement.
Moi non plus.
C'est vraiment une partie que je trouve maintenant assez désagréable.
Ouais, je comprends. Et ces notes-là, je voulais te le demander tout à l'heure, tu les fais aussi sur téléphone?
Ces notes-là, pour le coup, je les fais vraiment... Bah, sauf si vraiment, je me dis « Oh, faut absolument que je change ça et que j'ai pas mon PC d'ouvert. » Mais généralement, quand je me fais la remarque, c'est que je suis sur mon ordinateur et que je suis en train d'écrire et que j'ai une idée, je me dis « Oh, attends, là, je suis en train d'écrire ça, mais du coup, ça, c'est plus bon, donc faut que je change. » Et hop, je prends mon deuxième plan et j'écris « Changer dans tel chapitre, ceci. » Et j'ai continué à écrire.
Voilà. Et ça, c'est sur un Word?
Ouais, moi, je travaille que sur Word. J'ai aucun autre outil que Word. Je mets tout dans les mêmes trucs. Enfin, c'est un peu un bordel, mais c'est un bordel organisé.
Ok. Au moins. Super. Donc, on a parlé de ton appréciation de la réécriture. Je pense qu'elle est assez basse.
Ah ouais,
c'est pas
vraiment.
Ton étape préférée.
Pas du tout.
Ensuite, je voulais te demander, est-ce que tu as une routine d'écriture ou des habitudes qui te motivent à t'y mettre?
Je vais contextualiser ce que je vais dire après, mais j'ai pas besoin de me motiver à écrire parce que quand j'ai pas envie, je le fais pas, tout simplement. Donc je cherche pas la motivation en fait. Si j'ai pas envie d'écrire, j'écris tout simplement pas. Parce que j'ai remarqué qu'en fait chez moi, quand je force, même quand je cherche la motivation, même quand machin, en fait je produis des choses qui ne me plaisent pas. Et systématiquement quand je me force, même pour une phrase, même pour deux phrases, ce sont souvent des choses que je vais effacer parce qu'en fait quand je vais vraiment avoir envie d'écrire, les choses vont venir un peu plus facilement et les choses vont me sembler un peu plus évidentes parce que quand j'ai envie, c'est souvent que j'ai une idée soit de comment écrire la scène que j'ai en tête, soit d'une nouvelle scène que j'ai envie d'écrire ou d'un chapitre que je veux rajouter ou d'un concept qu'il faut absolument mettre. Et du coup, ça va me mobiliser en fait. Et c'est ça qui va me donner envie d'écrire. Et en fait, tant que je ressens pas cette urgence d'écrire en mode « Ok, là maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je note cette idée, c'est maintenant qu'il faut que j'écrive ce dialogue », si je me force... Je regarde une page blanche pendant une heure, j'écris deux lignes que j'efface le lendemain, donc ça ne sert strictement à rien.
Ouais, donc pour toi, tu considères que c'est vraiment comme une perte de temps et ça
ouais,
vaut pas le...
vraiment, vraiment. Vraiment, c'est une perte de temps pour moi. Et du coup, je cherche pas la motivation, enfin, même dans les moments où parfois j'ai pas écrit, parce qu'il y a eu des moments où parfois pendant quelques mois, j'écris pas. Et en fait, peut-être que c'est parce que j'ai d'autres types d'art qui m'intéressent et que j'adore lire et que j'ai d'autres passions et d'autres choses que j'aime faire dans la vie. Et du coup, je ressens pas non plus un manque. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, quand j'écris pas, j'ai d'autres choses que j'aime faire. Donc, c'est pas non plus un drame pour moi de pas écrire pendant 2, 3, 4 mois. Je le vis pas mal. Au contraire, je le vois juste comme une pause nécessaire. Et souvent, quand je fais une pause de quelques mois, quand je reviens... c'est un volcan quoi, genre ça entre en éruption et puis c'est tant que j'ai pas tout sorti, toutes les idées et que du coup maintenant ça passe par le G0, mais tant que j'ai pas sorti toutes ces idées là par le G0, je vais continuer à avoir des coulées de lave d'idées et puis et continuer à écrire. Donc ouais, je cherche pas l'inspiration, je pense que ça me vient aussi quand je lis. Il y a des périodes, là le mois de janvier j'ai très peu écrit, sauf j'ai pas très peu écrit, les deux dernières semaines j'ai été pas mal mobilisée par ce projet, mais les deux premières semaines de janvier je n'ai rien écrit et j'ai fait que lire. J'ai énormément lu, j'ai lu la traverse rêve, la passe miroir, j'ai lu la passe miroir toute la saga en genre 2 semaines et demie. Et je pense en fait que c'est nécessaire aussi pour nourrir ma motivation de lire des livres que j'aime et de... Ouais, en fait en découvrant des romans que j'aime sincèrement et en découvrant et en ayant des... en ressentant des émotions en lisant, ça me rappelle pourquoi j'écris, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ces moments-là de pause où je ne fais que lire, ils sont importants aussi, puisqu'ils me rappellent que... Ah ouais, c'est vrai que j'écris aussi. Et c'est vrai que je peux aussi faire ça, transmettre des émotions avec l'écriture, et puis du coup, j'y reviens, et ouais, quand j'y reviens, c'est des moments qui sont très cool, des fois un peu pénibles quand ça a du mal à sortir, mais ouais, c'est pas que j'attends l'inspiration, c'est que je sais qu'elle finit par venir, elle trouve son chemin, au bout d'un moment, dans tous les cas.
Puis tu y reviens en étant bien, en étant disposé à écrire.
Exactement.
Donc, c'est tout positif, je trouve. Surtout, tu sais, le fait que si t'écris pas pendant plusieurs mois, tu te sens pas mal ou quoi que ce soit, genre, c'est vraiment top. C'est topissime.
Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'auteuristes qui souffrent du fait de pas écrire pendant un certain temps et qui se sentent mal de ça. Si jamais c'est votre cas, vous qui nous écoutez, sachez que c'est un mal pour un bien. Parfois, c'est ce qu'il faut aussi, prendre du temps pour soi et juste pour réalimenter un peu tout cet imaginaire et réalimenter, reprendre des forces, en fait. Tout comme ça ne nous viendrait pas à l'esprit de courir un marathon le ventre vide sans faire de pause, des fois, il faut juste prendre du temps, prendre des vacances, arrêter d'écrire, manger. manger, lire quoi, en gros. Manger de la nourriture de l'esprit. Et puis ouais, y revenir progressivement, enfin se recommencer à écrire, se réentraîner pour reprendre, enfin pour continuer la métaphore filée du marathon. Et c'est sûr que comme ça, on peut avoir l'impression que oui, mais quand tu cours un marathon, il faut t'entraîner tous les jours parce que sinon, machin. Mais c'est faux en fait. Il y a aucun sportif qui ne prend pas de pause. Les sportifs qui prennent pas de pause, ils se blessent. C'est aussi simple que ça. Et puis voilà. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Ouais, ben, je suis totalement d'accord et j'aime beaucoup dire qu'une pause, c'est productif parce qu'après, ça te permet que, ben, de revenir en forme. Et
Non, mais totalement.
ben, c'est indispensable, en fait. Une autre question que j'ai par rapport à tes réécritures. Est-ce qu'entre le premier jet et la réécriture, tes projets changent beaucoup ou pas tant que ça?
Pense que ma saga avait beaucoup changé entre chaque réécriture parce que je ne savais pas construire une histoire. Donc à chaque fois que je voyais un truc, c'était toujours des trucs énormes à changer. Donc chaque réécriture transformait radicalement le récit. Aujourd'hui, comme je planifie quand même pas mal avant d'écrire, et que je sais pourquoi j'écris chaque roman que j'écris, et que je sais pourquoi ce sont ces personnages et pas d'autres, surtout les principaux. Bah finalement les changements c'est plus soit des changements en surface genre vraiment des chapitres qui manquent de rythme ou des choses comme ça ou soit ça va être peut-être des trucs de fond mais pas le fond du fond c'est-à-dire que c'est pas la raison même d'exister du roman qui pose problème c'est plus souvent des choses bah voilà je sais pas une idée que j'ai mal réussi à transmettre quelque chose qu'on comprend pas parce que dans le fond on a l'impression que je dis le contraire peut-être de ce que je veux dire ou quelque chose comme ça et du coup je dirais qu'aujourd'hui les réécritures enfin là si je devais réécrire Romance pas cliché je avec toutes les remarques même les pires remarques qu'on a pu me faire sur Romance pas cliché je pense que le travail serait pas si colossal que ça et que les changements il y en a mais ça ne transfigurerait pas totalement le roman ça resterait quand même bien bien RPC.
Ok, tant mieux. Donc, ça ressemble pas à ma réécriture chantier intense de la traversée où j'ai jumelé des trucs, là. C'est un peu n'importe quoi.
Bah, il y a quand même une suppression de
Ok.
personnage qui est pas utile, mais comme on le voit trois, quatre fois, trois fois, je
Ça
crois qu'on le voit
paraît
trois
pas
fois,
trop.
ouais, je supprime, mais bon, ça va pas avoir une influence énorme sur le roman, et c'est pour ça qu'il faut le
Ok.
supprimer d'ailleurs.
Ouais, ben c'est ça, ouais. Je comprends. Ensuite, on passe à qui es-tu en tant qu'auteur? On va parler des réseaux sociaux, comme on disait au début du podcast. Premièrement, si tu avais la confirmation que personne ne lirait jamais ce que tu écris, est-ce que tu penses que tu écrirais différemment?
Alors cette question, quand je l'ai vue, j'ai immédiatement pensé à ce que au podcast de Morgane que j'avais fait avec Morgane parce que elle m'avait demandé un truc, une question sur c'est quoi le meilleur conseil d'écriture, quelque chose comme ça. Et en fait, ta question, elle résonne exactement avec ma réponse que j'avais fait à Morgane, donc je vais reprendre la réponse que j'avais fait à Morgane parce que je trouve qu'elle répond exactement à la question. C'est qu'en fait un jour, donc le meilleur conseil d'écriture que j'ai reçu, c'est un de mes professeurs de littérature de l'UQAM. Peut-être que tu le connais du coup. Il
Peut-être.
s'appelle Jean-François Chassé. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Non,
Non.
je t'avoue que non.
Bah un prof incroyable. mon meilleur prof, toutes disciplines confondues, le meilleur prof que j'ai eu de toute ma vie. Et en fait, il tenait un cours sur la monstruosité, et comme à l'époque j'écrivais de la fantasy et qu'on en discutait régulièrement, parce on discutait beaucoup d'écriture créative aussi avec lui, et en fait un jour, il m'a demandé si j'avais pas peur de la critique et du jugement des autres, donc c'est pour ça que ça rejoint vraiment ta question, qu'est-ce que j'écrirais et comment je l'écrirais? Et en fait, cette question qu'il m'a posée m'a ouvert le champ des possibles. Et du coup, ça c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, on va dire 4 ans. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à cette question, j'ai commencé à écrire vraiment pour moi-même. Alors évidemment que ça ferait plaisir d'être lu et voilà, hein, c'est sûr. Et j'ai quand même envie de publier un roman un jour, mais disons que je n'écris plus sans être moi. Et ça, c'est probablement le plus beau cadeau que ce professeur pouvait me faire, c'est du coup bah, m'aider à me rendre compte que mes idées ont de la valeur, que ce que je veux transmettre ça a de la valeur, et que la façon dont je veux les transmettre, je suis la seule à en décider. Et que si ça ne plaît pas, parce que j'en sais rien, je prends l'exemple de RPC, des choses qu'on a pu déjà me dire, bah, c'est trop vulgaire, il y a trop de vulgarité, ou le style est un peu trop parlé. Oui, dans ta narration, tu fais des fautes parce que du coup, ton personnage utilise pas le ne quand il dit ne pas. Enfin, du coup, voilà, des choses qu'on a pu me dire. En fait. Et en fait, pour moi, je suis capable de dire qu'en fait, ces choses-là, elles ont un sens dans le récit. Je suis capable de dire que c'est comme ça que mon message doit être passé parce que justement, c'est le message important de ce. Enfin, c'est un des messages importants de ce roman aussi. Et le langage, c'est politique. Et ce qu'on fait du langage, c'est politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement important pour moi de transmettre mes idées exactement comme j'ai envie de les transmettre. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout le temps. Hein. Il y a des fois où je pense transmettre une idée et on comprend mal. Mais disons que maintenant, j'arrive à vraiment me détacher, pas forcément du jugement ou du regard, parce que ça fait jamais plaisir de quelqu'un qui dit bah, « j'ai arrêté de lire parce que c'est trop vulgaire ». Tu te dis bah, « d'accord, qu'est-ce que je peux y faire ?» Je ne compte pas changer ça. Enfin, c'est quand c'est quelque chose, quand on te fait une remarque sur quelque chose que tu peux changer ou que tu as envie de changer, c'est différent que quand on te fait une remarque sur l'identité même de ton roman, je trouve. Et puis parfois, tu te demandes juste pourquoi est-ce qu'on vient de dire ça. Enfin, je veux dire, si c'est pas à ton goût, c'est pas à ton goût, c'est tout. Enfin, je sais pas. Des fois, je me demande ce que les gens attendent de l'auteurice en venant dire que quelque chose de profond, d'intrinsèque au roman, en fait, devrait être fait autrement, puisque tu vois, si c'est fait comme ça, c'est que c'est fait comme ça. Enfin, c'est fait pour être comme ça. Et si ça déplaît, ce que je comprends tout à fait, je critique pas le fait de pas aimer la vulgarité dans un roman ou de pas aimer le langage familier ou l'argot. Et si cette personne en utilise, c'est probablement pour une raison. Et c'est un choix, en fait. C'est un choix que moi, maintenant, en tout cas, je ne laisse plus qui que ce soit me retirer ce choix-là. La façon dont je dis les choses, même dans la vraie vie, parfois ça peut ne pas convenir. Alors évidemment, il y a des limites hein, quand on parle à une personne mais dans un roman la seule limite c'est ce que moi je choisis comment je choisis de dire les choses et moi la vulgarité ne me pose pas de problème donc si j'en utilise c'est parce que c'est un choix éclairé.
C'est tout à ton honneur et toi t'as lu mon roman mais tu sais qu'on m'a fait la même remarque niveau vulgarité alors que Oriane, elle dit le mot merde de temps en temps. Alors que c'est pas super.
On t'a fait une remarque sur la vulgarité de la traversée. Oh, j'en reviens pas. Je trouve que ton roman est tellement pas vulgaire que. Waouh.
Mais je suis tellement d'accord avec toi sur. Moi, ça, c'est une vision que j'ai énormément. Que l'auteur a fait ça de telle manière parce que c'est ça qui devait être fait. Donc. J'ai rarement tendance à me dire « Ah, j'aurais mieux aimé que ça soit comme ça ou comme ça. » Tu sais, j'essaie vraiment de faire confiance à l'auteur, à l'autrice, par rapport à son roman. Et je pense que j'ai pas encore atteint ton point où je me laisse vraiment écrire tout ce que je veux, mais ça résonne beaucoup en moi, ta réponse. Et je pense que j'aspire à ça, à plus me permettre et à pas penser au jugement.
Je te souhaite, parce que c'est libérateur, en fait.
Je pense que ça se voit aussi, tu sais, quand on écrit et quand les personnes lisent notre roman, je pense qu'ils doivent le sentir, qu'on s'est vraiment permis tout ce qu'on voulait.
Et même en termes de sujet, je sais que pendant très longtemps, je pense que, notamment dans ma première saga, il y avait des sujets que j'osais pas aborder, par peur en fait aussi de comment ça serait jugé aussi parce que les seules personnes qui lisaient mon roman à l'époque c'était ma mère et mes amis et qu'aujourd'hui ma mère ne lit plus mes écrits pour la simple bonne raison que comme je lui dis cache les choses et que je lui mentionne le fait que j'aborde souvent la sexualité par exemple sous différents angles et qu'elle elle comprend même pas pourquoi est-ce que j'écris sur ce sujet là plutôt que juste de me confronter à son regard sur mon texte, qui va forcément être négatif, puisqu'elle, c'est pas un thème qui l'intéresse, et elle comprend même pas pourquoi est-ce qu'on peut vouloir parler de sexualité. Donc forcément, il y a des thèmes où, en fait, si tu dis, oui, mais là, ma mère va lire, telle personne va lire, j'oserais jamais écrire telle scène parce que je sais que mes parents, mais écoute, si t'as envie d'écrire sur ces thèmes-là, déjà, demande-toi pourquoi t'as envie de les écrire. Peut-être que t'as quelque chose à raconter qui peut vraiment, sincèrement débloquer quelque chose chez quelqu'un, qui peut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et d'ailleurs, dans mon projet de romanthésie, ça va beaucoup parler d'intimité, pas de sexualité, puisqu'il n'y aura pas de scène de sexe à proprement parler, mais justement, ça va remettre en question, en fait, toutes les choses sur c'est quoi l'intimité, en fait, entre deux individus. Okay. C'est une romanthésie beaucoup plus tournée vers le côté romance, donc émotion, que vers le côté sexualité, avec lequel j'ai aucun problème dans les romans quand c'est bien fait, hein, vraiment, j'ai aucun problème avec les scènes pimentées, on va dire. Mais ouais, je pense qu'en fait, si tu veux en écrire, c'est probablement parce que t'as quelque chose à en dire, que ça soit parce que t'as envie de voir du consentement entre deux personnes, par exemple, que ça soit parce que toi-même, dans ton histoire, t'as eu des choses que t'as envie de coucher sur papier et qui sont importantes, parce que c'est aussi un traitement, l'écriture, hein, dans une certaine mesure.
Ouais.
Et voilà, je pense qu'en fait, même en termes de thème, on peut s'empêcher des choses, parce qu'on peut se dire, bah oui, mais je pense... telle personne qui va lire, mon oncle ou machin, enfin j'ai pas envie que les gens autour de moi, machin, mais en fait, je veux dire, on est sur Terre, on est sorti de quelque part, hein, ils sont au courant de... enfin, voilà, à un moment,
ouais.
Je veux dire, je comprends qu'on soit timide par rapport à ça et qu'on se dise, ah oui, mais bon, je suis pas très à l'aise, et si on n'est pas à l'aise, y a pas non plus de problème, on peut juste ne pas écrire sur ce sujet, mais si on s'en empêche simplement parce qu'on se dit qu'il va y avoir un regard sur ce texte, peut-être qu'on a vraiment envie d'écrire sur ce sujet, finalement.
Mmh.
Et je pense que c'est important de se poser la question si on est mal à l'aise simplement parce que nous ça nous met mal à l'aise, ou si on est mal à l'aise parce qu'on pense qu'on va être jugé là-dessus. Et je pense, okay, que si la réponse c'est bah en fait j'ai peur qu'on m'associe à cette scène et qu'on se dit ah ouais elle écrit de l'érotique, bah si on se dit ça de toi et que toi ça te dérange profondément qu'on t'associe à de l'érotique, peut-être qu'effectivement il vaut mieux te protéger de ça en n'en écrivant pas. Mais c'est aussi comprendre que on peut tellement pas plaire à tout le monde que si tu es critiqué parce que tu as écrit une scène érotique, ça en dit plus long sur la personne qui pose la critique que sur toi-même, que sur ton rapport à cette scène et sur ton rapport à la sexualité et ton rapport à l'écriture. Donc, faisons ce qu'on veut, en fait. Faisons ouais. juste ce qu'on a envie de faire, écrivons ce qu'on a envie d'écrire. Et je dis pas que c'est simple, ça demande beaucoup de réflexion et ça demande mm-hmm. du temps parfois pour accepter d'écrire certaines choses, mais Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient apprendre de ce qu'on a à dire sur certains sujets, même des sujets qu'on aurait honte d'aborder. Et je pense que ouais. en prenant cette perspective, c'est pour ça que ça, on revient en fait au début de notre discussion sur la transmission. En prenant en compte en fait ce côté-là, c'est pour ça que par exemple j'ai écrit et je compte écrire sur l'intimité et la sexualité. C'est parce qu'en fait il y a tellement de choses à apprendre dont on nous parle pas. Il y a tellement de choses qui sont lacunaires dans cette société que j'aimerais que quelqu'un qui lise et qui fait son entrée dans la sexualité puisse ne pas vivre les mêmes, enfin ne pas avoir les mêmes écueils, ne pas vivre les mêmes choses que les mm-hmm. choses par lesquelles je suis passée, et puisse réfléchir autour du sujet et se dire ah ok, bah dans ce roman j'ai appris que peut-être il y a d'autres façons de faire intimité. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que avoir réfléchi au sujet et constater qu'en fait j'ai finalement peut-être appris quelque chose avec cette lecture. Alors oui, ça fera peut-être honte à tes parents que t'aies écrit un truc sur la sexualité, mais si la personne en âge de lire, évidemment, si la personne en âge de lire ce texte le fait et s'en sent grandi, parce qu'elle se dit, bah voilà, j'ai jamais lu une scène de sexe traitée comme ça parce que c'est assez récurrent que ça soit traité de la même manière. Enfin, je veux dire, on retrouve souvent quand même les mêmes
schémas.
Les mêmes schémas, les mêmes traitements en fait de ces scènes. Et moi, clairement, quand je lis par exemple une romance où la sexualité est traitée différemment, je le remarque immédiatement, vraiment immédiatement. Qu'elle soit traitée ou qu'elle soit pas traitée d'ailleurs. Enfin, qu'elle soit traitée ou qu'elle soit un peu porte fermée, comme dans l'effet boule de neige. Je sais pas si tu l'as lu, de Clara.
Oui, je l'ai lu.
Et bah voilà, il y a des scènes un peu pimentées entre guillemets, mais il n'y a pas de sexualité, enfin il n'y a pas de sexe, on va dire, à part entière. Et pourtant, il y a une scène qui est en même temps romantique, en même temps érotique, et la façon dont elle est traitée, bah, c'est très respectueux en fait. Et justement, c'est tourné autour du consentement, et c'est tourné, enfin. Et moi, je me dis que toutes les jeunes personnes, parce que c'est quand même un roman jeunesse, toutes les jeunes personnes qui vont lire ce roman, bah, je suis persuadée que ça va. Enfin, peut-être pas toutes, mais je suis persuadée que ce genre de scène aide à comprendre certaines choses. Et à comprendre ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on peut tolérer dans une relation, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Donc voilà, je pense que ça permet aussi ça, de s'affranchir du regard, du jugement des autres. Ça permet d'écrire enfin ce qu'on a au fond de nous, en fait.
Ouais.
J'ai beaucoup parlé.
Ouais, ben, ça me touche beaucoup comme sujet, puis là, je commence un nouveau roman, et je veux vraiment comme essayer de faire comme toi, là, d'essayer de pas trop penser aux avis extérieurs, à qu'est-ce que telle personne pourrait penser en lisant, tout ça. Donc, je vais essayer de me détacher de ça.
Alors, c'est difficile, mais je te souhaite en tout cas. Tu me diras, tu viendras m'en parler.
Pas de problème.
C'est quoi, ça serait peut-être sortir un peu du podcast, tu me diras. J'allais te dire, c'est quoi vraiment les sujets, par exemple, sur lesquels tu t'as un peu peur du regard des autres, mais en même temps, t'aimerais essayer de t'en détacher?
Ben, vite comme ça, j'ai peut-être pas d'exemple, mais... Okay. Je sais que, bon, tu sais, dans la traverse rêve, j'ai vraiment abordé le sujet que je voulais aborder de la façon que je voulais. Mais souvent, tu sais, par exemple, justement, dans des travaux scolaires, je me suis retenue, je me suis brimée dans, même parfois dans le genre dans lequel je voulais écrire, parce que, bon, je sais pas toi comment tu l'as senti à l'UQAM, mais dans tout mon parcours scolaire, il y avait peu de gens qui écrivaient de l'imaginaire. Et juste ça, ça faisait qu'on me regardait un peu différemment des autres. Alors que, tu sais, la fantasy, c'est un genre qui est quand même connu dans ma tête. Mais bon, on dirait que j'étais ovni. Tu sais, juste ça, c'était un truc qui me mettait un peu mal à l'aise. Alors que la fantasy, c'est mon genre préféré de tous les temps. Donc, ouais. Puis je pense aussi que la sexualité... Ça reste un sujet pour lequel je serais un peu gênée, mais j'aimerais ça, dans certains romans, l'aborder, quand ça va avec le roman, évidemment. Là, pour la traverse rêve, c'était pas vraiment mon but.
Oui, le but, c'est pas de l'aborder juste pour l'aborder, mais oui, quand ça fait sens dans l'histoire. Et ouais.
Mais ouais, j'ai pas d'exemple pour l'instant, mais je pense que c'est une brimade, mot qui n'existait pas, général. À part ça, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux affectent ton écriture? Est-ce que tu as un rapport positif avec eux?
Alors, là, dernièrement, je reviens progressivement déjà en DM parce que bah, c'est un peu la première base de la communication pour moi avec soit les gens que je suis, soit les gens qui me suivent. Mais voilà, mon compte, pour l'instant, il est quand même en gros stand-by depuis un petit moment. Et même en termes de story, genre je parle très peu de ce que j'écris dernièrement parce qu'en fait j'ai remarqué que quand j'en parlais, c'est comme si comme ça créait une attente, ce qui est totalement faux. Enfin, je pense que les gens ils font leur vie et au fond ils attendent rien. Enfin, si t'écris ton roman, tant mieux. Si tu l'écris pas, tant pis, ça changera pas leur vie. Mais j'ai remarqué que dans mes derniers projets contemporains, à partir du moment où j'ai commencé à en parler, où j'ai reçu des messages un peu de gens « Oh là là, ça me hype, oh ce thème, j'aime trop, oh j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire bah, », en fait, le fait de trop en parler, je me sentais comme...
Ça te met de la pression.
Ouais, c'est ça. Genre « Oh, j'aurais peut-être pas dû ». Et sauf que j'avais pas ressenti ça du tout en partageant sur RPC, enfin Romance pas cliché, parce que j'ai commencé même mon compte en parlant de Romance pas cliché, que je n'avais pas encore terminé, puisque il était en cours d'écriture. Et j'avais pas du tout ressenti cette pression-là, peut-être aussi parce que comme je découvrais le genre de la romance et du contemporain, comme j'étais dans moi-même dans un... Je me lâchais, en fait. J'étais totalement en train de découvrir tout ça et tout ce genre. Et du coup, ça m'avait pas spécialement posé problème de partager. Au contraire, même j'avais adoré partager des bouts ou même poster sur Wattpad et avoir des retours, des réactions. Mais au final, là, je sens que, en tout cas, ce projet-là, j'ai pas parlé du... Même si j'en ai dit un petit peu, j'ai pas parlé du thème principal, vraiment, et j'ai pas parlé du second personnage, parce que c'est quand même une romantaisie, donc c'est qu'il y a deux personnages. Et j'en ai pas parlé aussi parce que j'ai pas envie que ça me bloque, et j'ai pas envie justement de trop en dire, et que ça génère pas d'attente, mais comme ce que je te disais avant, en fait, même si ça génère pas vraiment d'attente réelle, j'ai pas envie de sentir que, ok, maintenant il y a un enjeu, j'en ai parlé, je peux plus revenir en arrière, les gens vont se dire, ah, ok, donc elle travaille sur un projet de ci, enfin... Ouais.
Mais tu fais bien d'aller à ton rythme à ce niveau-là. Moi, j'ai commencé à parler d'un projet récemment et c'est possible, je te dirais que je dévie et que j'aille sur autre chose et je me sens comme ça, justement, tu sais, comme si j'ai créé une attente et là, tout le monde va être déçu, alors que... Bon, je pense que les gens vont s'en sortir, là, ils vont survivre sans le roman. Mais quand même, tu sais, on se sent comme si on... on laisse tomber quelque chose et on déçoit les personnes qui nous suivent. Donc, je comprends totalement le fait de vouloir attendre un peu avant d'en parler de façon plus concrète.
Je pense que je parlerai de ce projet ou de même d'autres projets quand j'en écrirai d'autres. Je pense que maintenant, je vais plutôt commencer à communiquer sur un projet quand au moins j'ai terminé le premier jet. Comme ça, même s'il y a une réécriture, même s'il y a des refus de maison d'édition ou je ne sais quoi, s'ils ne trouvent jamais preneur, au moins, même si j'en aurais parlé entre guillemets dans le vide, s'ils ne trouvent pas s'ils trouvent personne pour être publié, j'aurais quand même attendu un moment où je sais que le texte existe, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
En parler avant même que le texte existe et quand tu es au balbutiement de la création, moi finalement je pense que ça me bloque plus qu'autre chose et c'est vrai que là je sens que ça me fait du bien d'à peine en parler. J'ai vraiment juste partagé un micro bout de texte, un extrait, sans même dire de quoi le roman parlait d'ailleurs. c'est un petit peu égoïste, mais j'ai écrit au passé, j'étais contente de ce passage, j'ai voulu le partager, mais voilà, pour l'instant, je veux pas en dire plus et je pense que ça me convient bien de rester un peu plus discrète, en tout cas sur mes textes, sur mes réseaux sociaux. J'ai quand même envie de reprendre les réseaux parce que j'ai envie de reprendre le fait de suivre les gens que je suis, c'est les gens qui m'intéressent, dont le travail m'intéresse, et j'ai totalement abandonné les réseaux, donc je reviens progressivement, je recommence à regarder un petit peu ce que les gens font, et je pense qu'une fois que je serai à nouveau bien dans ce petit monde qu'est Bookstar, je reviendrai aussi progressivement en poste pour parler d'illustration ou de lecture ou d'écriture en général, mais parler vraiment de mes projets, je pense que ça va venir encore plus tard, finalement.
Je comprends totalement. Super, donc tu as répondu à toutes mes questions. On passe par contre, avant de terminer, à un petit segment spécial. c'est le segment comptoir à potions. Donc, on imagine que j'ai différentes potions qui te permettent soit de sauter une étape du processus d'écriture, soit de la vivre différemment, et tu me dis quelle potion tu choisis. Okay. Donc, quelle potion tu choisirais pour sauter une étape entre planification, premier jet, relecture, réécriture ou synopsis? Bon, on peut enlever relecture vu que t'en fais pas.
C'est difficile parce que en même temps, a priori, j'aurais envie de répondre réécriture parce que je suis une traumatisée de la réécriture. Et en même temps, je mets tellement de temps à écrire un premier jet que si je pouvais, avoir un premier jet déjà écrit...
Ouais.
Je vais pas te mentir, je pense que je fais sauter le premier jet. Même si, en fait, c'est compliqué parce que, j'aime écrire. Genre, je suis pas quelqu'un qui aime pas le premier jet, juste que comme c'est un peu laborieux et que je suis assez lente, en général, c'est quelque chose qui met quand même du temps à arriver. Donc, si je pouvais une potion pour avoir mon premier jet écrit, ça serait quand même un petit avantage.
Ça t'éviterait quelques problèmes.
Voilà, c'est ça. Donc, je dirais premier jet.
Super. Et maintenant, si je t'offrais une potion qui te permettait de t'améliorer dans quelque chose, est-ce que tu choisirais pour les dialogues, les descriptions, les chapitres 1 ou les fins de roman?
Les descriptions, mais tellement les descriptions.
Ah ouais? Ok.
Ah ouais. En fait, je me suis rendu compte en commençant ce projet de fantasy, parce que comme jusqu'à maintenant, dans mes contemporains, je décrivais assez peu parce que je voyais pas forcément énormément l'intérêt. Tu vois, quand tu dis que ton personnage rentre dans une friperie, on a tous plus ou moins une image de ce que c'est une friperie. T'as pas besoin de décrire tous les recoins de la friperie et pour qu'on s'imagine bien le contexte. Et en fantasy, le fait de commencer et d'écrire un premier chapitre où en fait le monde est inconnu pour le lectorat.
Ouais.
En fait, t'es obligé de décrire. Plus ou moins, ça fait 3 ans que j'ai pas vraiment fait des vraies descriptions, encore plus au passé. Et là, honnêtement, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'était infernal, parce que les dialogues, ça allait, mais alors entre les dialogues, les passages de description,
c'est compliqué,
Pour faire des descriptions qui soient pas ennuyeuses, mais en même temps qui expliquent bien l'univers ou le propos ou l'endroit, qu'on se représente bien là où on est, c'est un sport, quoi, le truc. Vraiment, c'est.
Ouais, je comprends.
description. Puis premier chapitre et dernier chapitre, c'est les trucs que j'aime, donc ça me viendrait pas à l'idée de prendre une potion pour ça. Et puis dialogue, je pense c'est les premiers trucs qui me viennent, et souvent c'est des dialogues, des interactions entre les personnages, donc pas besoin.
Ouais, je comprends. Moi, je prendrais la même potion que toi parce que
Ouais.
les descriptions, je trouve que c'est tellement un défi. Moi, ça me prend absolument une image pour réussir à décrire quelque chose. Genre, donc, je vais
Ouais.
trouver quelque chose sur Pinterest qui ressemble un peu à ce que je veux décrire, mais sinon, impossible. Dernière potion et question de cette interview. Si je pouvais t'offrir une potion qui rendrait toutes tes scènes d'un type meilleur, scène d'amour, scène d'action, combat ou scène profonde, genre communication, tout ça.
Scène d'action, je pense que les... Alors, j'écris pas beaucoup de scènes de combat, donc c'est pour ça que je la prendrais, parce que comme j'ai pas du tout l'habitude d'écrire des scènes d'action, vraiment, enfin, j'en ai pas écrit depuis ma saga fantasy, puisque bah, en romance, t'as pas vraiment beaucoup besoin d'écrire des scènes de combat, hein. Et voilà, dans
Effectivement.
les actions, c'est plutôt des dialogues et c'est plutôt des moments d'émotion, et ça va, genre. Je trouve que je me débrouille pas trop mal. Après, c'est surtout les bêta-lectrices qui me pointent des fois des trucs et qui m'aident à retravailler l'émotion de ce côté-là. Mais ouais, je pense que scène d'action, de souvenir, dans ma saga fantasy, j'avais bien
Ok.
galéré quand il y avait des combats.
Ouais. C'est difficile.
Ouais,
Je
je
prends la
trouve.
même potion moi aussi. Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup, Astrid, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'étais super
Merci
contente
à
de
toi de
parler
m'avoir
avec toi.
invité. Ça m'a fait très
Ouais,
plaisir. C'était
et
très
c'était
cool, j'ai
super
pas été
intéressant.
en...
Non, non, mais t'as super bien fait ça. On dirait que tu fais des podcasts tous les jours.
Eh bien, pas du tout.
Donc, merci encore et à bientôt à tous nos
Merci
auditeurs.
à
J'espère
toi.
que vous passerez une belle semaine, que vos projets se porteront bien et que vous aussi.